Salut! Bienvenue dans notre podcast de l'Art du Boire, un récit d'allaitement. Je m'appelle Janie et je suis la cofondatrice de l'Art du Boire, une compagnie qui offre aux mères allaitantes des sous-vêtements confortables, efficaces et magnifiques. Ce podcast a pour but de te rassurer, de te partager des histoires des mères qui sont passées par l'allaitement, de normaliser toutes les difficultés que tu pourrais avoir ou que tu as eues. J'espère que ce podcast pourra te soutenir, te faire rire, même peut-être pleurer, mais qui pourra te faire du bien. Bonne écoute! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode, un récit d'allaitement de l'Art du Boire. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler juste avant de l'Art du Boire, notre belle compagnie de sous-vêtements d'allaitement et maintenant avec des beaux maillots de bain d'allaitement. On a sorti, il y a 2 semaines, le maillot de bain La Voie Lactée, qui est déjà disponible sur notre site web. Et au courant de la semaine, nous sortirons un deuxième maillot de bain qui est tout à fait noir, qui en ce moment n'a pas de nom quand j'enregistre cet épisode, mais je vais trouver, avec toutes les femmes qui m'aident, on va trouver un magnifique nom à ce maillot de bain-là. Tu peux toujours utiliser le code promo DUOBC quand tu achètes la brassière ou le haut maillot de bain. Tu obtiens la culotte à 20% de rabais. Donc, c'est vraiment le fun dans ce temps-là. Donc, je te suggère fortement d'aller les voir parce qu'ils sont magnifiques. Ils vont être pratique pour ton été avec tes cocos, tes cocottes, tes trésors. Ils sont parfaits pour l'allaitement, mais ils sont aussi tellement parfaits juste pour se baigner. T'es pas obligé d'allaiter si tu veux pas allaiter ou si t'as pas envie d'allaiter avec ça, c'est correct. Ils ont pas l'air de vêtements d'allaitement, de maillot d'allaitement. C'est vraiment un beau maillot, mais qui est pratique pour allaiter aussi. Donc, c'est vraiment le fun pour ça! Je te suggère fortement d'aller le voir. Et si tu ne nous suis pas sur les réseaux sociaux, viens nous suivre, c'est là que tu vas savoir tout, que tu vas être au courant de toutes nos promotions, de toutes nos nouveautés et des sorties des podcasts aussi. Voilà pour ça. Aujourd'hui, je reçois Marie-France. Ça a été tellement une belle discussion. J'en dis pas plus parce que je trouve tellement que chaque femme raconte tellement bien son histoire que je voulais juste la présenter tout simplement. Je vous souhaite une bonne écoute.
Allô! Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va super bien. Au moment qu'on commence, la réunion. Oui. C'est correct. S'il y a de quoi que ce soit, on arrête.
Il voulait dire allô aussi.
Oui, c'est parfait. Alors, on va commencer avec la toute première question. C'est qui Marie-France? Qui est cette femme?
Oui, Marie-France, elle est maman de 2 garçons. Donc, j'ai Elliot qui va avoir 3 ans bientôt et Arnaud qui a tout juste, bientôt 2 mois, qui est à côté de moi et qui essaie de dormir. Je travaille à l'immigration pour le gouvernement fédéral depuis 2016. Je suis mariée avec mon conjoint Simon là, depuis... on est mariés en fait depuis septembre 2021, mais on est ensemble depuis 2016. Wow. Marie-France, elle aime lire. J'aime beaucoup le café, cuisiner, faire des pâtisseries. Je suis quelqu'un de quand même très simple et très go with the flow dans la vie. J'aime ne pas me mettre trop de pression et juste de profiter des petits moments. Je suis quelqu'un qui est vraiment capable d'apprécier les petits détails, les petites choses, puis de voir le bonheur un peu partout. Donc, c'est un petit peu ça.
Oh, c'est parfait! Tellement beau! Excuse-moi, mon micro, je le vois comme moins. OK, c'est parfait. Je m'excuse pour cette petite affaire. Mais comment ça a commencé, ta belle histoire? On commence où? Dans ton histoire?
Dans mon histoire, on commence en septembre 2019, dans le fond. Je suis tombée enceinte de mon garçon. Moi, j'ai été suivie en maison de naissance à Pointe-Claire, qui est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, d'être suivie par les sages-femmes à la maison de naissance. Donc, en septembre 2019, j'appelle pour avoir un rendez-vous avec sage-femme. Là, évidemment, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, tu ne sais pas tout de suite si jamais tu vas avoir de la place quand c'est ton premier enfant. Donc, j'ai été mise sur la liste d'attente, puis on m'a dit, ah, tu sais, prends un rendez-vous avec un médecin pour être sûr, tu sais, que tu aies un suivi. Donc, j'ai eu un premier rendez-vous avec un médecin, puis honnêtement, elle était hyper gentille, puis elle a répondu à toutes mes questions, sauf que ça a duré, je pense, 20 minutes où elle parlait, elle signait des prescriptions en les déchirant, puis en les donnant à mon chum, en même temps que j'écoutais, puis que je pensais à mes questions, puis elle est partie du bureau, puis j'étais essoufflée. J'étais, ouais. Oh mon Dieu, comme c'était un marathon là, que je viens de vivre en 20 minutes. Donc, quand j'ai eu l'appel pour maison de naissance, j'étais tellement heureuse parce que justement, c'était le jour et la nuit. Là, je me suis assise avec la sage-femme la première fois, puis je pense qu'on a parlé pendant une heure et demie. Là, j'étais ah, c'est tellement merveilleux. Donc, juste la différence entre les deux, j'ai fait comme, OK, je vais vraiment être bien ici. Donc, c'est ça. Donc, mon suivi a été à la maison de naissance à Pointe-Claire. J'ai vraiment eu une super belle grossesse à mon premier. Là, j'ai rien à dire. J'avais le petit glow et j'étais bien. J'avais des petits bobos de femme enceinte. Mais en général, ça s'est super bien passé. J'ai eu un super bel accouchement en maison de naissance aussi. Mon garçon, il est né en mai 2020. Fait que malgré le contexte, parce qu'on se souvient que mai 2020, on est en début de pandémie. Mon chum a pu être là. J'ai été super bien entourée, super bien soutenue. Ça a duré 13 heures au total en plus. Donc, pour un premier, c'était quand même très bien. Donc, c'est ça. J'ai eu un super bel accouchement. Puis moi, c'est un peu après que ça s'est gâté, si je peux dire. Ce qui est drôle, c'est que moi, je m'étais dit dans ma grossesse, ah, j'aimerais vraiment ça allaiter, mais je ne me mettrais pas de pression. Et ça, c'est probablement la plus grosse menterie que je me suis contée de toute ma vie. C'est drôle parce que ma sœur aussi se disait la même chose et les deux, on a vécu quelque chose de semblable qui, avec le recul maintenant, est moins d'hormones. Je fais comme, mais pourquoi tu as fait ça? Dans le fond, je voulais vraiment allaiter, mais c'est ça, je me disais que je ne me mettrais pas de pression. Puis, Elliot est né, je l'ai mis au sein, ça se passait quand même vraiment bien. C'est sûr que là, tu sais, le manque de sommeil, tout ça, beaucoup d'hormones, mais j'ai plus ou moins une montée de lait, mais il y a, tu sais, il tète, puis on l'entend cavaler, tout ça. Puis, j'ai mon suivi avec sage-femme les journées suivantes. Il prend pas beaucoup de poids, mais tu sais, j'ai eu un bébé de 8,3 livres. Fait que, tu sais, on n'était pas inquiet non plus au niveau du poids que ça prenne un petit peu tant de temps que ça s'installe. Et on est à... Lui, il est né le dimanche, le vendredi, après sa naissance, on le pèse et tout ça. Puis ma sage-femme m'a fait « Ah, on va se revoir lundi. » Tu sais, elle montre d'autres positions pour allaiter, elle me donne des trucs, elle me dit « Va chercher tel supplément. » Elle dit « Pas avec ça cette fin de semaine, on se voit lundi, on le repèse, puis on va voir ce que ça donne. » Et là, cette fin de semaine-là, je donne tout ce que j'ai. Là. Je pense qu'il était au sein, là, comme tout le temps. Je faisais des compressions sur mes seins. J'ai commencé des suppléments naturels. Je m'hydratais bien. J'ai tout fait. C'est comme tout ce qui existe. Je pense que je l'ai fait cette fin de semaine-là. Puis j'étais convaincue là, qu'on arriverait, qu'on le mettrait sur la balance. Puis il aurait pris plein de poids. Et je me souviendrai toujours qu'on l'a mis sur la balance le lundi. Et il était au gramme près le même poids que le vendredi.
Oh, non.
Il n'en avait pas perdu. Mais à une semaine de vie... il stagnait, tu sais.
Ouais.
Puis je me souviens, là, j'ai vu le chiffre sur la balance, puis avant même que ma sage-femme dise quoi que ce soit, parce qu'il fallait qu'elle aille comparer les deux chiffres, moi, je le savais, là. Tu sais, je l'ai vu, puis j'étais là, ah! Oh. Puis dans ce temps-là, en pandémie, ben mon chum, il était pas là. J'étais, ben, évidemment, j'étais bien entourée, là, j'étais avec une sage-femme, mais lui, il était dans l'auto, puis il attendait. Fait que là, on s'est assis dans son bureau, puis elle dit, tu sais, je le vois que tu as fait des efforts, il n'a pas perdu de poids, là, tu sais, puis elle dit, tu fais tout ce qu'il faut. Mais elle dit, là, il va falloir commencer à donner de la formule parce qu'il faut. Il faut qu'il prenne du poids, le bébé. T'sais, il a besoin de manger plus. Puis elle me parle de faire le dalle avec le tube et tout ça. Puis là, elle m'explique tout ça. Puis dans ma tête, ça fait « Ah non, je ne suis pas capable. » Tu sais, je pourrais pas faire ça. Là. Je l'écoute parler, puis qu'elle me donne les sacs avec l'équipement. Et là, je me vois vraiment pas faire ça. Mais j'ai peur de dire non. Tu sais, je me dis, dans ma tête, en ce moment-là, c'est bien, c'est super postpartum, plein d'hormones. Tu n'es pas capable de nourrir ton bébé, il a faim. Et là, je me dis, si je dis à la sage-femme que je ne veux pas, ben là, je vais me faire juger. Mais je veux dire, on s'entend que dans une maison de naissance, il n'y a rien qui... Je ne me ferai jamais juger, mais je ne suis même pas capable de lui dire. Tu sais, fait que j'écoute, puis j'ai oui, puis je pose des questions même sur comment faire telle chose, en sachant très bien que jamais je vais faire ça, tu sais. Puis là, je l'écoute, puis le rendez-vous se termine, puis je me lève, puis ma sage-femme me regarde, puis elle fait, ma France, elle dit, tu sais, t'as le droit de trouver ça tough. Puis là, évidemment, je fonds en larmes dans son bureau. Puis elle dit, rassois-toi, on va se parler. Puis là, on continue à jaser, tout ça. Elle dit, au pire, tu donnes le biberon, tu sais, on parle et tout ça. Je pars, j'arrive dans l'auto, mon chum me dit, puis comment ça s'est passé? Je refonds en larmes dans l'auto, en gros sanglots. Puis là, elle me dit, ah oui, ma sage-femme m'avait dit aussi, tu sais, on va te louer un tire-lait.
Oui.
Pour essayer de stimuler tout ça. Mais les pharmacies ne louaient plus de tire-lait parce qu'il y avait des risques de contamination et tout ça. Fait que, je veux dire, j'ai fait plein d'appels dans des pharmacies en venant chez moi, il n'y en avait pas. Là, tu sais, est-ce que je veux vraiment aller acheter un tire-lait? C'est quand même cher. Tu sais, là, je suis dans cette espèce de mode où tout ce que j'ai dans ma tête, c'est ton bébé, il a faim. Tu as deux choses à faire, c'est comme assurer sa sécurité, changer ses couches, puis le nourrir, puis tu n'es même pas capable de faire ça. Puis là, j'ai ma petite voix dans ma tête qui me dit, tu n'es pas capable de nourrir ton enfant, puis c'est ta seule job. Puis là, je me picosse avec ça sans cesse, puis j'ai fait des appels, puis j'essaie de trouver un tire-lait. Puis je me souviens, j'ai appelé ma mère parce que, tu sais, dans le contexte de la pandémie, mes parents ils ont vu le bébé à travers la porte patio. T'sais, mes parents ils sont même pas rentrés chez moi. Puis là, j'appelle ma mère, puis je me mets à pleurer, puis je dis, il faut que je donne la formule. T'sais. Puis ma mère, elle me répond, elle dit qu'est-ce qui te fait de la peine? C'est parce qu'il faut que tu donnes la formule? C'est parce que ça marche pas? T'sais, elle dit, puis mon bébé, il a faim. Puis elle dit, mais ma France, si ton bébé a faim, tu donnes la formule, puis il n'aura plus faim. Elle dit, c'est ça qui te fait de la peine qu'il y a eu faim. Elle dit, donne la formule, là, ça règle le problème. Puis c'est fou à quel point en postpartum, tu sais, des trucs aussi simples que ça, tu les vois pas, là. Tu sais? Puis moi qui m'étais dit, ça fonctionne pas, je m'acharnerai pas, je me suis acheté un tire-lait, je me suis, tu sais, j'ai tout fait pour essayer que ça fonctionne. J'ai acheté des suppléments qui venaient des États-Unis. Puis je voulais tellement que ça fonctionne. Puis je tirais mon lait, je suis allée en clinique d'allaitement. Okay. Mais c'est ça, le soir même où j'essaie de trouver un tire-lait, puis là, ça marche pas. J'ai texté ma sage-femme parce que je voulais même pas l'appeler. J'étais tellement gênée en disant comme, « Hey, je serais pas capable de faire le dalle. » Tu sais, genre, je m'excuse. Puis elle était comme, « Mais excuse-toi pas. » Puis comme, c'est très correct. Elle dit, « Qu'est-ce que tu veux faire? » Tu sais, comme, on part, est-ce que t'arrêtes? Est-ce que... Mm-hmm. Puis là, c'est ça, je dis, « Bien, je veux quand même, je vais m'acheter un tire-lait. Je vais essayer de donner mon lait le plus possible. »
Ouais.
Mais je ferai pas le dalle. Puis elle dit, c'est bien correct. Puis là, c'est là, tu sais, comme avec le recul que je suis capable de dire que la personne qui me mettait le plus de pression, c'est moi-même. Là. Mon chum m'en mettait pas, mes parents m'en mettaient pas, ma sage-femme m'en mettait aucunement. Ça venait juste de moi quand moi, enceinte, je me disais, je me mettrai pas de pression si ça marche pas.
On est bon pour pardonner.
Ah oui, non, c'est ça. Puis tu sais, quand je dis que c'était le plus gros mensonge que je me suis compté, là, c'est vraiment celui-là. Puis en plus, tu sais, j'essayais encore de le mettre au sein, puis il m'a blessée dans ce 24 heures-là de chercher un tire-lait, de comprendre ce qui se passe et tout ça, puis d'essayer de l'accepter. Il m'a blessée, il m'a arraché un morceau de mamelon, tu sais. Fait que là, j'avais peur de le mettre au sein. Comme il y a tellement, comme, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais j'ai tellement eu mal que là, j'avais peur de le mettre au sein. Fait que dans toute ce début d'allaitement, ben j'ai comme arrêté d'allaiter pendant un 24 heures où c'est tellement important d'allaiter souvent, de tirer ton lait souvent, que ma production, tu sais, que je pensais qu'elle était bonne, mais qu'elle n'était pas fort toute, mais elle a encore plus chuté parce qu'il y a eu une pause puis il y a eu un arrêt.
Ouais.
Fait que même en repartant avec un tire-lait et tout ça, c'était pas magique. Écoute, au meilleur, avec la dompéridone, avec de la pluie et tout ça, je tirais 250 ml par jour pour un bébé qui boit un litre. Qui a comme 2 mois. T'sais, je regardais la différence, puis j'étais là, ben voyons donc, jamais j'aurais pu le nourrir. T'sais, c'est sûr qu'il y a eu faim. Puis là, ça revenait tout le temps, ça, il y a eu faim. T'sais.
Un peu de peur, aussi, là-dedans.
C'est ça. Puis, tu sais, les gens, ils me disaient, ils me faisaient, mais pas, tu sais, ils disaient ça à la blague, tu sais, parce que quand je le donnais à boire, tu buvais avec vraiment appétit. Puis, les gens disaient, ah, tu ne nourris pas ce bébé-là, mais cette phrase-là, ça a pris du temps, mais que je l'accepte hein, comme une blague, parce que. Moi, ce que je pourrais penser, c'était, ben non, sa première semaine de vie a eu faim, tu sais. Puis ça revenait tout le temps. Puis je pense que ça a fait aussi que j'ai pas. Je voulais m'acharner autant, puis tu sais, de tirer mon lait le plus possible, comme un peu comme une auto-punition, de dire, ben, t'as pas été capable de. Tu sais, il a eu faim, fait que toi, tu vas tirer ton lait aux 3 heures pendant plusieurs semaines, tu sais.
Ouais.
Fait que ça a vraiment été difficile comme expérience d'allaitement. J'ai tiré mon lait jusqu'à 4 mois. De naissance. Dans ma tête, c'était je donnais des anticorps jusqu'à la deuxième dose de vaccin.
Okay.
Ce que j'ai réussi. Mais c'est challengeant. Tirer leur lait, là, les femmes qui font du tir à allaitement, je leur lève mon chapeau parce que c'est exigeant comme ça se peut pas. Parce que tu te retrouves à donner le biberon, mais tu te retrouves à faire comme les deux, en fait. Tu as comme les mauvais côtés, si je peux dire, des deux, d'allaiter puis donner les biberons.
C'est pas les bons côtés de réconforter ton bébé, d'avoir ce lien.
C'est ça.
C'est un lien avec ton bébé, mais c'est pas le même lien que l'allaitement au sein, par exemple. Là.
C'est ça. Donc, avec Eliott, ça a été vraiment difficile, puis ça a été difficile à accepter que ça fonctionnait pas. Je me souviens, écoute, le 250 ml que je réussissais à tirer, s'il y avait le malheur de ne pas finir un biberon, j'avais le goût de pleurer. C'était malsain quasiment. Là. Les bouteilles, là, je les mettais de côté pour être sûre d'aller chercher les dernières gouttes. Si j'avais le malheur d'en échapper, si c'est la fin du monde. Je voulais tellement pouvoir y donner tout ce que j'étais capable d'aller tirer, qui n'était pas beaucoup, que j'étais tellement attachée à mon lèvre à l'époque qu'il n'y arrive rien. Puis je me souviens, ma soeur m'avait dit durant l'été, elle dit, « Mère France, elle dit, la journée où tu vas être capable de jeter ton lait, ça va aller mieux. » J'étais comme, jeter du lait. Je suis comme, ça n'arrivera jamais. Je suis comme, il va avoir, quand je vais décider d'arrêter, tu peux être sûr qu'il va avoir bu chaque goutte que je vais avoir tirée. Tu sais. Puis elle dit, non. Elle dit, un jour, elle dit, tu vas être capable de jeter ton lait, puis ça va aller mieux. Puis en effet, éventuellement, j'ai été capable d'en jeter, d'en tirer, puis d'en jeter, puis de faire, c'est correct. Puis ça a tellement été mieux à partir de ce moment-là, tu sais, de comme briser cette espèce de. C'est merveilleux du lait maternel, là, mais. De briser cette espèce de chaîne-là que je m'étais mise, de dire comme il faut qu'il y ait chaque goutte, puis la pression que je me mettais. Puis c'est ça, après 4 mois, je n'ai pas tout jeté, là. J'en ai quand même donné, mais tu sais, j'ai été quand même de dire, gars, j'en verse dans le lavabo, puis c'est correct. Je ne me mettrai pas à pleurer, tu sais. Puis c'est comme ça que ça s'est fini, avec une amertume un peu de ne pas avoir réussi. Moi, en fait, je suis allée même en clinique d'allaitement, puis on me disait, la médecin m'a regardée, puis elle a dit, « Mère France, tu ne seras jamais capable d'allaiter exclusivement ton enfant. » Elle a dit, « C'est rare que je dise ça à quelqu'un. » Elle m'a dit, « J'ai une hypoplasie de ma mère. En fait, j'ai pas assez de glandes de ma mère pour être capable d'allaiter. » Elle a dit, « C'est très, très rare que je dise ça à quelqu'un. » Elle m'a dit, « Je te ferai pas des accroirs puis des miracles que tu sois capable. » Elle dit, « Tu seras jamais capable d'allaiter exclusivement tes enfants. Celui-là, les prochains, que tous les enfants, je serai jamais capable d'allaiter exclusivement. »
Comment elle a pu le découvrir, mettons, ça?
Ça, dans le fond, c'est quand tu as une hypoplasie mammaire, peu importe la grosseur de tes seins, c'est souvent, ils sont plus espacés. Okay. Ça démontre qu'il y a moins de glandes mammaires dedans. D'une grossesse à l'autre, qu'on m'a expliqué, c'est que tu peux en avoir plus, généralement. T'sais, comme souvent, ta production, elle est meilleure d'un allaitement à l'autre. Ce qui est vrai aussi, si tu as une hypoplasie, c'est juste que jamais, à moins que j'aille genre 30 enfants, ce que je n'aurais pas... Tu n'atteindras jamais un stade où tu as assez de lait pour nourrir tes enfants.
OK.
Donc, quand le médecin m'a dit ça, j'ai fait comme « Ah! » Tu sais, ça m'a un peu enlevé de pression en disant « OK, je veux dire, si la médecin d'une clinique d'allaitement me dit que je ne serai pas capable, je vais être réaliste un jour. »
Au final, là, c'est comme ton corps qui est fait comme ça. Tu sais, y a-tu, c'est-tu, mettons, c'est juste génétique ou juste...
Je sais pas. Moi, on a découvert pendant ma première grossesse que j'ai de l'hypothyroïdie que j'avais avant. On l'a découvert pendant ma grossesse, mais clairement, j'en fais depuis longtemps, puis on le savait pas. Fait que peut-être que ça pourrait être lié à ça, que ça a sous-développé les glandes mammaires. Ça pourrait être lié à ça.
Juste pour que les gens comprennent, c'est quoi ça?
L'hypothyroïdie, en fait, la thyroïde, c'est une glande, je crois. Puis moi, en fait, elle travaille pas assez. Fait que mon métabolisme est plus bas.
Parfait.
En gros, là, de façon simplifiée, c'est ça. Donc, mon métabolisme, il, de base, est trop bas. Fait qu'on l'active avec la médication.
Oui, c'est ça. OK. Ouais. Parfait. Mais est-ce qu'avec la médication, ça pouvait régler le problème?
Je pense qu'il est trop tard. Parce que les glandes mammaires se développent pendant l'adolescence et tout ça. Fait que j'ai vu une petite différence avec mon deuxième.
OK.
Mais c'était pas exceptionnel non plus. T'sais. OK. Tu sais, Arnaud, dans le fond, je suis tombée enceinte en juin 2000, donc en 2023, juin 2022. Puis contrairement à Elliot, ben j'ai vu une différence un peu dans mes, tu sais, des changements dans mes seins pendant la grossesse que j'avais pas eu du tout avec Elliot. Fait que j'étais pleine d'espoir, mais contrairement à ma première, j'étais pleine de, ben, en fait, je me suis encore dit que je m'acharnerais pas. Mais cette fois-ci, ça a marché. C'était pas un mensonge. Cette fois-ci, je pense que j'ai bien appris du premier. Puis je pense qu'on est plus réaliste dans une deuxième grossesse, puis avec un deuxième bébé, de ce qu'on va être capable de faire, puis ce qu'on va accepter et pas. T'sais, on est un petit peu plus réaliste puis raisonnable, je pense, dans nos attentes. Parce qu'on l'a vécu une première fois. Fait que je pense que ma première expérience d'allaitement m'a vraiment aidée à avoir un postpartum beaucoup plus simple. Le contexte fait que je ne suis plus en pandémie non plus. Donc, tout ça fait que ça va beaucoup mieux. C'est pas mal différent.
Ça a dû tellement être intense, là. Tu sais, je vais juste revenir avant que tu me comptes ton deuxième allaitement, là. Mais le fait d'être en COVID, d'être isolé, puis tu sais, c'était au début de la pandémie, donc on était tous un peu, on avait tous peur, on avait tous, on connaissait pas c'était quoi la COVID, on savait pas c'est... Puis on était tous isolés face chacun chez soi. Avoir un bébé en isolement, là, ça doit tellement être intense, là, encore plus que tu sais, comme c'est intense d'avoir un bébé, mais en isolement, parce que là, t'as plus d'aide, t'as pas rien, là, autour de toi.
C'était... Ouais, ben je pense qu'en plus, un premier bébé, oui, c'est encore plus intense parce que t'as aucun repère, puis tu comptes tellement sur ton village, puis sur tes parents, puis ça, que... En mai 2020, on avait tellement peu d'informations. Là, ça, c'est, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, là, c'est le temps où on lavait notre épicerie. Là, que c'était oui, la ça. Folie. Puis on avait très peu d'informations. Fait que c'est facile maintenant, avec le recul, de dire « Ah, ben on n'aurait pas dû faire telle chose, on aurait dû faire telle chose », parce que maintenant, on a l'information. Ouais. Donc, c'est sûr que nous, avec un nouveau-né, on a vraiment pris la décision de s'isoler encore plus, puis de refuser. Parce que les gens, on a eu des propositions d'aide de nos familles, là, mais... Nous, on a décidé, avec le peu d'informations qu'on avait, de se protéger, puis de protéger bébé, puis de juste refuser.
C'est pas mal.
Donc, on s'est vraiment isolés. Tu sais, comme j'ai dit, on a présenté bébé à travers la porte patio. On a, je pense, une dizaine de personnes qui ont pris notre garçon dans la première année de sa vie. Des photos avec des masques. Écoute, mes parents, puis ben, les deux côtés de grands-parents ont pris bébé avec... Ils lavaient leurs mains, ils portaient un masque. On mettait une serviette ou une doudou sur eux. Puis, tu sais, comme littéralement, on le déposait, puis c'était comme, tu pouvais mettre ta main sur ses fesses pour le tapoter, mais tu touches pas rien d'autre, tu sais.
Ouais.
C'est tellement extrême. Puis, oui, tu sais, aujourd'hui, c'est facile de dire, ben voyons donc, vous étiez un petit peu crackpot, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est facile de dire ça aujourd'hui, oui, là, comme 3 ans plus tard, mais...
En même temps, c'est ça, coup, notre réalité, là.
C'était ça la réalité, puis c'était de pas savoir, tu sais, à quel point il est dangereux ce virus-là sur un nouveau-né. J'ai pas le goût que ce soit mon bébé qui serve d'étude à Sainte-Justine, tu sais.
Non, c'est ça.
Donc, on est vraiment allé à l'extrême. Puis, tu sais, chaque fois que je trouvais une activité pour... Parce qu'un congé de maternité, c'est tellement isolant à la base. Mais en pandémie, c'est que chaque fois qu'il y avait une activité, quelque chose que je trouvais, bien, c'était annulé parce qu'il y avait des nouvelles mesures.
Mm.
Moi, ce qui a été merveilleux, c'est que ma soeur a eu un bébé 4 mois avant moi. Donc, les deux, on était en congé de maternité, puis on s'est fait une bulle ensemble, parce que sinon, on ne serait jamais passé à travers. Fait que c'est l'été, puis on allait dans des parcs, on allait se baigner. On faisait des activités ensemble, puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on s'est soutenus, qu'on a été capable de vraiment passer au travers. Là. Tu sais, c'est, j'ai passé au travers de mon premier congé de maternité. C'est plate à dire, mais c'est vraiment comme ça que je le vois un peu. Je me souviendrai toujours que quand les dernières mesures ont vraiment été annulées, j'ai tellement senti un poids se soulever, puis de faire comme... J'ai regardé mon job, j'ai fait comme... OK,
ouais,
on a passé au travers, là, puis comme ça va être correct, mais ça a été comme une espèce de marathon à sans cesse se faire pousser par terre, parce que tu te relèves un petit peu, puis tu fais OK, ça va aller mieux, puis là, ah non, il y a des nouvelles mesures d'activité que tu avais trouvées, tu peux pas y aller. On a fait, entre autres, on a réussi à avoir une activité, c'était de musique dans des parcs. On est rendu en mai 2021. Fait qu'avec une animatrice qui venait faire des découvertes d'instruments de musique pour les enfants dans un parc à distance. Puis celui-là, c'est la première activité vraiment qui n'a pas été annulée, qu'on a eu le droit de faire. Puis j'étais là, ah, oh, ça fait tellement du bien de voir d'autres mamans qui ont toutes vécu la même chose que toi, qui comprennent, parce que, tu sais, même si les gens sont pleins de compassion puis d'empathie, si tu ne l'as pas vécu, je pense que tu ne peux pas comprendre l'étendue de ce que ça représentait d'être isolé avec ton bébé puis d'avoir un peu peur aussi. Ce n'est pas juste d'être isolé, c'est que tu ne sais pas, tu sais, si je prends la chance d'aller au parc puis que mon enfant touche le module, on va-tu pogner quelque chose? C'est comme, c'est ridicule aujourd'hui de se dire ça, mais quand tu es dedans, avec les hormones en plus, tu ne veux pas qu'il arrive rien à ton bébé, là. T'es comme une maman ours, puis là, tu dis, non, ben, je vais rester chez moi. Puis, ben, je vais me trouver, je vais lire des livres et tout ça, mais à un moment, t'as besoin d'interaction aussi, là.
Oui.
On les adore, nos enfants, puis faire des gagas gougou, mais à maner, t'as besoin de parler à des adultes aussi.
Exact. Là. C'est, mais l'humain est sociable à la base, fait que, tu sais, c'était contre nature de s'isoler comme ça, mais en même temps, c'était ça, la réalité, puis c'était, tu sais, puis moi, je me rappelle, j'étais enceinte à ce moment-là, puis nous aussi, là, on s'est isolés de tout, on a tout coupé parce qu'on avait peur pour la grossesse, pour le bébé, pour tout ça. Puis Tu sais, c'était... Mais ton chum a pu être là. T'as-tu été comme celle qui avait pas le droit que son conjoint soit à l'hôpital? Mais t'étais pas à l'hôpital, ta maison de naissance, fait que sûrement c'était différent, là.
Moi, c'était dans le contexte où on avait peur que ça arrive. Mais je savais qu'en maison de naissance, s'ils n'étaient pas là en maison de naissance, parce qu'il n'y a plus personne à coucher avec leur chum. Comme, c'était impensable. J'avais demandé à ma sage-femme, puis elle était comme, c'est impensable pour nous que le parent, deuxième parent, ne soit pas là. Elle dit, on interdit comme les accompagnateurs extra. Elle m'a dit, c'est impensable dans ma tête de ne pas permettre au deuxième parent d'être là, là. C'est comme, ça n'a pas de sens. Mais c'était la période de peur.
Oui, c'est ça. Moi, je capotais quand j'avais vu ça, là.
Tous les rendez-vous de fin de grossesse, puis les rendez-vous de suivi postpartum, mon chum ne pouvait pas être là. Ouais. Je l'appelais sur Messenger pour qu'il puisse s'entendre et tout ça, puis ça fonctionnait plus ou moins. Il était dans l'auto et tout ça, mais il n'avait pas le droit d'être présent. Mais au moins, je sais qu'il y en a que les partenaires n'avaient pas le droit d'être là aux échographies et tout ça. Nous, on n'en a pas eu une fois que la pandémie a commencé. Fait que j'ai pas eu cet enjeu-là. Mais je me souviens que j'avais peur de ne pas pouvoir, tu sais, qu'il soit pas là, dans ma tête, c'était impensable, mais le contexte faisait que c'était comme pas assez clair dans la part du gouvernement que ça arriverait pas.
Oui.
Fait que ça, c'était vraiment épeurant.
S'il attrapait la COVID aussi, là, c'était s'il attrapait la COVID, tu fais pas coucher à maison de naissance aussi, là. Tu sais, fait que là, nous, c'était ça aussi notre peur, c'était comme on s'isolait de tout parce qu'on voulait pas attraper la COVID, parce que si on l'attrapait, je fais pas coucher à maison de naissance. Finalement, tu vois, j'ai pas accouché à maison de naissance.
Mais c'est pas la faute de la COVID.
Non, c'est ça, c'est la faute d'Arthur, il s'est pas retourné. Mais dans le sens que, tu sais, c'était tout le temps comme c'était une crainte, c'était, tu sais, fait juste d'avoir un. Tu sais, moi, j'étais juste enceinte, puis genre, on était intense dans nos restrictions, puis on avait peur, puis on avait tout ça. Avoir un bébé naissant, ça. Avec le postpartum aussi, toutes les hormones de ça, ça devait être tellement là, encore plus intense que juste d'avoir un nouveau bébé naissant dans un contexte normal, si je peux dire. Là.
Oui, vraiment. Oui. Puis tu vois, t'sais, tout le contexte de fin de grossesse en pandémie, ça a fait aussi que t'sais, j'ai dû faire le deuil de mon allaitement. Mais j'ai fait plein de deuils aussi à travers ma grossesse. T'sais, mon shower a été annulé parce qu'il était prévu à la mi-mars. Et j'ai pas eu de shower. J'ai pensé que mes photos de maternité devaient être annulées. Écoute, au point d'appeler la SQ pour vérifier, on va-tu se faire arrêter si jamais on prend des photos dans le bois dehors. T'sais, finalement, je les ai eues, mais t'sais, c'était comme chaque petit truc que dans ma tête, c'était impensable que ça arrive pas. Ben, c'était annulé sans cesse. Puis après ça, faire le deuil de mon allaitement aussi. C'était comme tout le temps, faire le deuil de présenter mon enfant comme je pensais le présenter. T'sais. Je veux dire, jamais dans 100 ans, tu m'aurais dit, tu vas présenter ton enfant à tes parents à travers une porte patio. Ouais. J'aurais ri, là. J'aurais dit, il n'y a aucune chance que ça arrive. Non, et pourtant, c'est arrivé, là. Ouais. Fait que, tu sais, je suis chanceuse d'avoir un deuxième enfant parce que, ben, premièrement, c'est un privilège, là. Mais, tu sais, ça m'a permis aussi de, au fil des deux derniers mois, de réparer des bobos aussi que la pandémie elle a laissé, là. Tu sais, je suis revenue chez moi, puis mes parents, ils étaient là avec notre grand. Tu sais, ma mère a pris mon enfant, il avait 24 heures de vie, puis elle l'a pris dans ses bras, pas de couverture par-dessus, tu sais, elle a lavé ses mains. On a demandé quand même à nos proches de porter des masques au début. C'est juste pour faire attention, mais j'ai une photo de ma mère. Oh. J'ai une photo de ma mère avec Arnaud, il y a 24 heures de vie, puis elle n'a pas de masque parce qu'on a pris une photo, puis elle a remis son masque. Mais tu sais, ça, Eliott, il n'y a pas ça, là.
Non, c'est ça.
Petit cœur.
Mais c'est fou, là, tu sais. Puis quand tu parlais de petit deuil, c'était exactement ça, tu sais. Quand. Justement, là, il y avait plein d'affaires qui arrivaient, puis à chaque fois, c'était les activités étaient soit annulées, on avait eu la COVID ou on avait été en contact avec quelqu'un de la COVID. Fait qu'il y avait des trucs qu'on avait annulés, tout ça. Là, puis j'ai tellement pleuré à chaque fois, les deuils, puis tout ça. Fait que c'est juste le mot des petits deuils, c'est exactement ça, moi aussi. Oui. Puis j'ai pas eu la. Ben, j'ai eu l'enfant en pandémie, mais moins en pandémie que toi, là, mais quand même, là, tu sais, c'est.
C'est quelque chose qu'on a vécu.
Oui, c'est ça! C'est quand tu y repenses. Donc là, maintenant, tu as eu Arnaud.
Oui, fait que deuxième grossesse totalement différent. Ben, la grossesse s'est bien passée aussi. Fait que, tu sais, la grossesse, c'était pas l'enjeu, si je peux dire. Mais un postpartum, clairement, c'est le jour et la nuit entre les deux parce que, ben, premièrement, pandémie, on n'est plus du tout dans le même contexte.
Non.
Et aussi, mes attentes étaient tellement plus réalistes. On avait déjà des biberons de la formule avec nous à la maison de naissance. J'ai quand même, tu sais, j'ai eu un autre super bel accouchement, tout aussi quand même long, là. Ça a pris 11 heures. Puis dans ma tête, J'ai tellement d'amis que leur deuxième, ça a été rapide que je trouvais ça long à la fin. Mais ça s'est super bien passé quand même.
Oui.
Puis, c'est ça, tu sais, rapidement, je l'ai mis au sein, puis tout ça. Mais ce que ça me permet, c'est que, premièrement, mon enfant n'a pas eu faim, ce qui fait vraiment du bien. Oui. Mais aussi, c'est que je suis tellement réaliste dans mes attentes que je peux l'apprécier, ce que je fais comme allaitement, tu sais. Je peux le mettre au sein, puis le regarder, puis le trouver cute, puis pas me dire, oh mon Dieu, il va pas assez boire, il va avoir faim. Tu sais, j'ai jamais pensé ça, parce que le biberon, il est à côté, il est prêt. Tu sais, quand il n'y en aura plus, quand il va être fâché parce qu'il est frustré parce qu'il n'y en a pas assez, ben, je vais lui donner de la formule, puis c'est correct. Je ne tire pas mon lait non plus. Tu sais, contrairement à Elliot, je tirais mon lait, puis il n'était pas au sein. Là, Arnaud est au sein, puis des fois, je vais tirer un peu. Donc, juste ça aussi, c'est moins de charge mentale à gérer de le tire-lait. Puis, tu sais, tant lui que moi, on peut vraiment apprécier le moment. La nuit, puis tu sais, je peux apprécier les petites victoires aussi parce que la nuit, il y a comme un réveil vers 1h ou 2h du matin où j'ai même pas besoin de donner de biberon de formule. Il prend le sein puis il se rendort. Fait que tu sais, ça, c'est une... jamais j'aurais pensé pouvoir faire un boire exclusivement d'allaitement, ce que je suis capable de faire. Je suis encore suivie en clinique d'allaitement et tout ça pour, tu sais, avec la dompéridone puis essayer de maximiser mes chances puis d'en donner le plus. Mais tu sais, je me mets pas cette pression-là de dire. Cette pression puis cette culpabilité-là que je m'étais mis à mon premier de dire « Ah, ton enfant, il a faim, t'es pas capable de le nourrir. » Je pense que ça guérit un peu aussi. Tu sais, j'en ai voulu à mon corps de pas être capable de nourrir mon enfant. Tu sais, je veux dire, des seins, ça sert à ça ultimement, là. Puis j'étais comme « Vous êtes même pas capable. » Tu sais, j'en ai vraiment voulu à mon corps. Puis tu sais, c'est ridicule parce qu'en même temps, mon corps, je suis tellement fière de ce qu'il a fait. Je veux dire, il m'a donné mon bébé, il m'a donné mes deux garçons. Tu sais, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais cette partie-là, il faut que j'apprenne encore aujourd'hui quand même, tu sais, à lui pardonner puis à dire « gars, c'est correct, il y a d'autres méthodes. » Mais c'est sûr, tu sais, j'aurais vraiment aimé ça, que ça fonctionne. Mais je me rends compte aussi que la culpabilité puis la pression et tout ça, ça venait de moi, ça venait pas de d'autres personnes. Je sais qu'il y a des gens pour qui la pression, elle vient de leur entourage, elle vient des gens qui les entourent. Moi, j'ai eu la chance parce que, honnêtement, si en plus de tout le contexte. Si à mon premier, j'avais eu de la pression externe, je m'en remettais pas. Là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, t'es pas capable d'allaiter ton bébé », je pense que je m'effondrais. Là. On m'aurait ramassé à la petite cuillère. S'il y avait eu de la pression externe, je m'en mettais tellement de moi-même que si quelqu'un en avait ajouté une couche, ça aurait été fini. Là. Tu sais, j'ai entendu des histoires là, justement dans mon entourage, des personnes qui essayaient tout. En plus, c'est comme si dis-vous corps et âme pour que ça fonctionne. Tu as des gens qui disent « Ben, tu sais, ça marche pas, c'est de ta faute. » Ben, je veux dire, t'essayes tout, là. Il n'y a pas de miracle. Puis, tu sais, je pense qu'on aimerait tout ça, que ça fonctionne facilement puis que je puisse en congeler pour y en donner jusqu'à ce qu'il y ait 6 ans, là. Tu sais, je veux dire, si je pouvais, je le ferais, là, mais je veux dire, ça marche pas. Puis à un moment, de juste se mettre de la culpabilité puis de la pression pour s'en mettre, il n'y a personne qui est gagnant là-dedans. Là. Si la maman ne va pas bien, ton bébé n'ira pas mieux. Là, je pense que nos enfants, ils le ressentent.
Ton corps est aussi relié à tes émotions. T'sais, le stress, ça diminue beaucoup la lactation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que, tout ce qui est stressant, la pression que tu mets à cette femme-là, on s'entend aussi, nous, on s'en demande beaucoup, hein? Mais c'est ça, tu sais, fait exactement, tous les gens qui donnent cette pression-là à ces femmes-là, ça n'a pas de lieu d'être parce que tu les aides pas en faisant ça. Tu fais juste les nuire parce que tu leur donnes le stress, puis le stress va diminuer leur production, donc va diminuer tout pour réussir la...
Je suis convaincue qu'elles s'en mettent déjà beaucoup toutes seules, ils n'ont pas besoin des autres.
Exactement. Puis, tu sais, je disais réussir l'allaitement, tu sais, dans le sens que si tu as allaité une semaine, pour moi, tu as réussi pendant une semaine, tu as allaité 2 jours, tu as allaité 2 jours, tu sais. Au final, tu sais, tu as allaité le nombre de temps, puis c'est ça qu'il faut, tu sais.
Exact.
C'est difficile de se dire que, j'ai pas réussi mon allaitement. Tu sais, c'est difficile vraiment beaucoup, puis je le comprends tellement. Je peux tellement comprendre ce sentiment-là. Mais des fois, il faut juste se rappeler que, tu as réussi à donner du lait. Point.
Ah oui.
Le but, c'est de nourrir son enfant, peu importe la façon que tu le donnes, peu importe avec le lait que tu le donnes, tu sais.
Exact. Puis un bébé heureux, ben maman est heureuse. Puis ultimement, là, il y a, tu sais, que ce soit Elliot ou Arnaud, mais ils mangent à leur faim, puis c'est ça qui est important à la fin de la journée, là.
Exact. Fait que Là, tu l'allaites, dans le fond, tu fais un allaitement mixte en ce moment avec lui.
C'est ça. Donc, la majorité, ça reste la formule parce qu'il boit, on donne entre 900 et 1200 ml de formule par jour. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas quantifier combien il y a de mon lait. Mais clairement, on a un petit gars qui est très, très fin et qui est très heureux qu'on ait de la formule pour lui parce que sinon, c'est vrai qu'il aurait faim. Mais tu sais, je le mets au sein le plus possible. Puis, tu sais, si les fois où je vois qu'il est vraiment frustré puis ça ne tente pas parce qu'il est très fin, ben je donne le biberon puis je le mets pas au sein. Puis, je me porte bien. Tu sais, je n'ai pas de... Oh, il est fâché. Oh là là!
Les petits cris de bébé naissant. Ben, c'est plus, deux mois, c'est-tu encore bébé naissant? On a pas, hein?
D'après moi, il est entre deux. Puis surtout à la taille qu'il a, je pense que bébé naissant, il a perdu son. Il a perdu son titre de bébé naissant rendu à 13 livres, là.
Oh, super!
Mais c'est ça, tu sais, je suis tellement réaliste dans mes attentes que je me sens tellement bien puis en paix avec ça, ce que j'ai jamais été capable de vraiment avoir pour mon premier, parce que je pense que jusqu'à la fin, j'avais comme cette espèce d'animosité de dire comme « Ah, j'ai pas réussi justement, tu sais, comme mon allaitement. » Tandis que là, ben c'est déjà une victoire, tu sais, juste de faire le plus que je suis capable. Je le vois vraiment comme une victoire, puis justement, je savoure les petites victoires de dire « Hey, la nuit, t'as un boire qu'il n'y a même pas besoin de formule, tu sais, versus... À mon premier, j'aurais juste focusé sur le fait que ben, toutes les autres boires, il y a besoin de formule. Okay. C'est juste de changer mon mindset puis de le voir de façon positive. C'est le jour et la nuit, là, puis ça fait du bien là, au moral. Puis justement, d'être moins stressée sûrement, quand on a plus ultimement qui réussit à avoir.
Oui, c'est ça. Puis c'est tellement important justement le mindset de se dire que c'est tout, de se concentrer sur le positif au lieu du négatif, là. C'est tellement ce qui est le plus important, mais des fois, c'est difficile là, quand tu es dans une bulle, quand tu es dans toutes tes... Tu vois plus rien là, autour de toi aussi. En postpartum, des fois, tout est intense, comme on disait. Là. Mais de focusser sur le positif, c'est tellement important. Puis de se le rappeler que c'est une victoire à chaque petit boire qu'il fait. Puis c'est parfait comme ça, tu sais.
Puis moi, je le vois vraiment comme... Tu sais, c'est sûr que je le nourris, là, mais je le vois vraiment comme je donne des doses d'anticorps. Fait que ça fait que je donne encore plus d'anticorps. T'sais, si je le voyais comme je le nourris puis que je donne, mettons, un 100 ml, ben je ne le nourris pas beaucoup, mais je donne beaucoup d'anticorps. Puis c'est comme ça que je le vois. Puis on dirait que ça aide aussi de juste dire comme, écoute, le temps qu'il y ait des bonnes doses de vaccin puis que son système il s'active, ben au moins je l'aide un peu. Ouais.
Ben oui, c'est tellement parfait, là. C'est beau! Je trouve ça tellement le fun parce que je pense que j'en ai pas eu beaucoup de personnes qui ont parlé, justement, d'un manque de lactation, mais qu'on fait un allaitement mixte comme ça, puis qu'on parle pas de ça, puis de comment on ressent tout ça, cette pression-là qu'on se met, puis là, c'est notre corps qui veut pas, parce que là, c'est pas la prise, c'est pas rien, c'est vraiment juste notre corps à nous qui, on va dire, nous laisse tomber, là. Oui, c'est vraiment, ça, exactement, mais que...
Parce que j'ai pas mal, tu sais, quand je le mets au sein, là, je serais capable de... Oh, t'es fâchée. Je serais capable d'allaiter dans le sens où, physiquement, j'ai pas mal, il prend quand même bien le sein et tout ça, tu sais, c'est juste qu'il y en a pas, tu sais, à un moment donné, il tète, puis il est fâché parce qu'il a faim, puis il y a rien qui sort, tu sais. Puis mon but, c'est pas non plus d'être juste une suce humaine, là, tu sais. Tu sais, c'est de gérer sa frustration, ce que j'étais pas capable de faire avec Ilia, justement, parce que, je veux dire, il était même pas au sein. Mais avec Arnaud, c'est ça, la simplicité de juste faire comme, OK, gars, t'es frustré, t'as faim, ben, gars, je le sais que t'en auras pas assez. Fait qu'on on va combler ton besoin d'une autre façon, puis c'est correct.
C'est bon.
Oui.
Tellement parfait. Est-ce que t'as eu des confusions, des trucs comme ça, ou face avec le biberon ou aucunement?
Il y a le biberon, la suce, puis mes seins, puis il prend de tout.
Tant mieux. Puis, il y a tout, c'est ça? Ah non, il prenait pas le sein.
Il prenait juste, c'est ça, il prenait juste le biberon puis la suce. Donc ça n'a pas été du tout un enjeu parce que j'utilisais vraiment le tire-lait. Puis tu vois, à Elliot, je me souviens qu'il y a eu un moment, je pense qu'il y avait autour de deux mois, puis j'étais un peu découragée puis je voulais arrêter, tu sais. Mais je n'étais pas encore prête à jeter mon lait, tu sais. Puis au lieu d'arrêter, à la place, j'ai commandé comme pour 100 $ de supplément puis un nouveau tire-lait plus cher et mobile. Tu sais, à quel point j'étais dans l'extrême. Tu sais, j'étais sur le bord d'arrêter. Puis au final, ben, j'ai acheté plusieurs centaines de dollars de stock pour pouvoir continuer. Mais je suis très contente d'avoir le tire-lait que j'ai acheté parce qu'il est meilleur et tout ça. Mais tu sais, c'est quand même fou de dire à quel point j'étais dans un mindset où j'étais pas bien pour juste m'acharner. Tu sais, à un moment, je pense que c'était de l'acharnement. Tu sais, quand tu tires 250 ml, écoute, je devais tirer 8 fois là, par jour. Là. Tu tires 250 ml dans ta journée, ton enfant, il en prend 1000. Je veux dire, c'est beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand-chose. Tu sais, comme, oui, très peu, ultimement, mais... ultimement, chaque goutte est importante. Puis c'est, mais c'est juste de dire, ça valait-tu vraiment tout cet acharnement-là? Surtout considérant tout le contexte
de la acharnement pandémie. Mental, puis, là, aussi,
là. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, considérant que, je veux dire, la pandémie, c'était pas facile, j'aurais pu peut-être aller prendre plus de marches, aller, tu sais, prendre soin de moi que d'être plugué sur mon tire-lait à tout bout de champ pour espérer, hey, je vais-tu me rendre à 300? Je veux dire, 300, c'est encore même pas le tiers de ce qu'il buvait, là. C'est quand même fou quand tu dis ça, là. Mais je voulais tellement. Puis, ouais. Tu sais, encore là, tu sais, j'aurais aimé ça que ça marche, puis d'en avoir plus, mais on dirait que j'ai été capable de faire la coupure, puis de me dire, gars, ton corps, il sera pas capable. Il est capable de faire plein de choses merveilleuses. Il a créé la vie deux fois, ouais. Mais ça, il sera exact. Pas capable. Fait que, tu sais, j'y vais vraiment avec c'est des correct. Attentes qui sont réalistes.
Ouais. C'est parfait. Bravo! Hey, je pense, là, est-ce que tu as une chose que tu voulais parler non, face à tes deux
allaitements? Je pense que j'ai fait le tour là, de...
Tu voulais avec ma dernière question.
Oui.
Qu'est-ce que tu dirais justement à cette Marie-France qui vient d'accoucher tout simplement? Qu'est-ce que tu lui dirais après avoir vécu toutes ces deux histoires-là?
D'essayer de respecter ta promesse! De pas te... Oh, j'ai fait peur! De pas... Oh, j'ai fait tout peur! Excuse-moi, bébé! D'accepter, en fait, d'accepter que ça ira pas comme tu aurais aimé, puis que c'est correct.
Oui.
Puis je dirais que ça va prendre du temps à l'accepter, puis ça aussi, c'est correct. Tu sais, ça reste ouais. un deuil à faire, puis un deuil, ça se fait pas en claquant des doigts, puis c'est bien facile de dire, ben ton enfant, il mange, puis c'est ça qui est important.
Ouais.
Oui, mais je pense que des fois, on oublie un peu la maman en arrière, puis la femme en arrière, de dire, un peu comme quand il y a un accouchement, puis on dit, ouais, mais au moins ton bébé, il est correct, mais ça s'est pas passé comme tu voulais, mais les attentes de la maman en arrière, même si oui, ultimement, on veut que tout le monde soit en santé puis tout le monde soit bien, je pense que c'est important de donner de la valeur aussi aux attentes que la maman puis la femme avaient, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour l'allaitement, de dire « ça n'a pas fonctionné puis ça te fait de la peine puis c'est correct. » Puis éventuellement, tu vas être capable de l'accepter.
Mm.
Puis même si ça ne sera pas un claquement de doigts, ben éventuellement, tu vas l'accepter. Puis cette acceptation-là va faire que ton deuxième grossesse, ton deuxième allaitement, ben ça va aller vraiment mieux, puis tu vas être capable de voir le positif.
Mmh. Oh, c'est beau! C'est tellement exactement ce que je pense, là, t'sais. C'est fou, des fois, tu sais, qu'on dit, même quand, tu sais, même des fois avec nos enfants, « Ah, oh, pleure pas pour ça, c'est pas grave, tu sais, ou justement, « Ah, oh, c'est juste une césarienne, c'est pas grave, la césarienne, tu sais, mais c'est ces attentes-là que tu avais, donc ces petits deuils-là que tu dois faire, tu dois les vivre pour réussir à te passer à travers. Fait que c'est correct de les vivre. Puis, mais après ça, c'est de se dire, OK, ça va bien aller après ça. T'sais. Ça va aller mieux, tu sais. Mais faut que tu sois capable, faut que tu les vives, ces émotions-là. Puis c'est pour ça qu'on dit que les émotions sont valables. Puis il faut les vivre pour passer à travers, tu sais. C'est obligatoire de les vivre, là. Puis il faut que tu les vives, puis... C'est pas en les cachant puis en les gardant très profondément que tu vas passer à travers. T'sais.
Exact. Puis, tu sais, si j'avais pas pris le temps de vivre cette déception-là, puis ce deuil-là, ben c'est sûr que ça ne serait pas passé aussi bien pour mon deuxième. Là. T'sais, donc, je pense que le message aussi à envoyer à quelqu'un qui vivrait, t'sais, que ce soit parce que physiquement, tu n'es pas capable de produire assez pour ton enfant ou n'importe quel autre enjeu qui fait que c'est pas possible. C'est sûr que si ton désir, c'était d'être capable d'allaiter exclusivement pendant, que ce soit pendant une semaine, pendant deux mois, pendant deux ans, c'est d'accepter que c'est correct, que ça te fasse de la peine, mais éventuellement aussi, il faut que tu donnes la chance de l'accepter puis de continuer, tu sais. Puis si tu veux d'autres enfants, de dire que ça pourrait être différent, mais la chance que ça ne fonctionne pas est aussi présente, c'est juste de te donner la chance que ça aille mieux en l'acceptant, en fait.
Tellement, là. Ah, oh, c'est beau ce que tu dis. Merci tellement. J'espère que tu as aimé ça.
Oui.
Et merci d'avoir d'avoir raconté ton histoire, je trouve que ça va faire du bien, je pense, qu'à certaines mamans, parce que j'en connais, moi, des mamans, j'en ai en tête que, justement, c'est difficile à cause de la lactation puis tout ça, puis qu'ils se mettent beaucoup de pression, puis que au final, tu sais, c'est ça, c'est correct que de faire un allaitement mixte, tu sais, puis c'est,
mais oui,
c'est aussi beau.
Absolument.
Puis de l'accepter comme ça, de le vivre, puis de juste de l'accepter, puis que c'est correct de juste de nourrir notre enfant, peu importe la façon que tu le fais, c'est beau, tu sais. Merci encore.
Mais ça fait super plaisir. Merci d'avoir accepté que je me joigne à toi.
Merci beaucoup encore à Marie-France d'avoir partagé son histoire, ben en fait ses histoires, avec ses deux cocos d'amour. C'est tellement un plaisir de parler avec vous, de jaser avec vous. Mon Dieu, à chaque fois, je fais une nouvelle connaissance, une nouvelle... Pour vrai, c'est toujours des beaux moments que je passe quand j'enregistre avec les gens. J'adore ça. Il nous reste encore 2 épisodes avant la fin de la saison 1. Donc, celui-là ici, 2 autres épisodes. Et après, ce sera terminé pour la saison 1. Bien sûr, il y aura une saison 2 du podcast qui n'a pas encore de date de sortie puisque je vais accoucher prochainement. En fait, sûrement qu'il va y avoir des épisodes où je vais avoir déjà accouché. mais ils sont déjà enregistrés, les épisodes. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas enregistrer pendant que j'accouche. je vais revenir avec une date de la saison 2. Donc, si tu ne suis pas sur les réseaux sociaux, suis-nous. Je te suggère fortement. C'est sûr que je vais parler de ma vie de petite maman avec un nouveau-né maintenant. Et je vais aussi vous raconter quand je vais sortir la saison 2, bien sûr. Et je vais aussi parler, si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, de partager ton histoire. Tu vas pouvoir m'écrire. Je vais lancer un peu la demande de celles qui ça leur tente de partager leur histoire. Là, je ne prends pas tout de suite les noms, mais quand ce sera le temps, je ferai une annonce sur mes réseaux sociaux. Donc, si ce n'est pas déjà fait, suivez-nous. Et si tu as envie de partager ce podcast, ça nous fait tellement grand plaisir. Tu peux nous écrire pour nous dire aussi qu'est-ce que tu en as pensé aussi de cet épisode-là. C'est toujours un bonheur de vous lire. Donc, je te souhaite une belle semaine. Sois à l'affût pour le lancement du nouveau maillot et je te souhaite plein de petits bonheurs lactés. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si le cœur t'en dit, partage-la sur les réseaux sociaux. Mets un 5 étoiles. Ce petit geste nous aide à faire connaître ce podcast et notre entreprise. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux nous suivre sur Facebook et sur Instagram pour connaître nos produits et savoir la sortie des prochains épisodes. Merci encore pour ton écoute et je te souhaite tout plein de petits bonheurs avec ton ou tes trésors.